qu'est-ce que ça me rapporterait de croire en Dieu? Voilà la question. C'est une question intéressante, mais je dirais aussi une question intéressée. Qu'est-ce que ça me rapporterait de croire en Dieu? Ça ressemble à la question d'une personne qui hésite à croire, qui hésite peut-être à s'engager dans la foi, mais qui se dit, mais finalement, qu'est-ce que ça va rapporter? Alors, avant de foncer tête baissée dans une réponse à la question, je vous propose plutôt de déjà d'étudier un petit peu les termes de la question. Alors, qu'est-ce que ça me rapporterait de croire en Dieu? Il faut savoir déjà de quel Dieu parle-t-on. Lorsqu'on parle de Dieu, on a tout de suite deux visions qui viennent à nous. La vision, ce qu'on appelle théiste. Alors, qu'est-ce que c'est le théisme? C'est l'idée qu'il y a un Dieu qui a créé le monde, l'univers, mais qu'ensuite, ce Dieu-là s'est désintéressé du monde, il a laissé le monde à son libre cours et il n'intervient plus dans le monde. Ça, c'est la position déiste. Voltaire, par exemple, était déiste. Il a dit cette fameuse phrase, impressionné par l'organisation de l'univers, « L'univers m'embarrasse, et je ne puis songer que cette horloge existe et n'est point d'horloger. » Alors, si nous avons cette réponse théiste à la, à la question, eh bien, qu'est-ce que ça me rapporterait de croire en Dieu? Ben, finalement, pas grand-chose, puisque selon cette position, Dieu se serait retiré du monde. Mais il y a une autre position que l'on peut adopter, c'est la position théiste, cette fois. Alors, pour les théistes, Dieu a créé le monde, il a créé l'univers, mais il intervient encore dans le monde, il rentre en relation avec le monde, il s'y intéresse et il agit toujours dans le monde. Alors le judaïsme, le christianisme, l'islam ont une vision théiste du monde. Et c'est avec cette vision-là que j'aimerais répondre à la question. En effet, cette vision me paraît la plus adaptée parce que à quoi bon créer des milliards d'êtres humains si c'est pour ne pas entrer en relation avec eux? Et d'où viendrait le sens relationnel de tous ces êtres humains si Dieu lui-même ne l'était pas? Mais une autre question se pose, quelle image a-t-on de Dieu? En fonction de la compréhension que l'on a de Dieu, on va répondre de manière totalement différente à cette question. Par exemple, si on a la vision de Dieu semblable à celle de Stromae dans la chanson qu'on va écouter dans un tout petit instant, eh bien, on ne va pas attendre grand-chose.
J'ai prié Dieu pendant des heures. On m'a dit qu'il était trop vieux pour tous nos pleurs, qu'il est trop riche pour écouter nos pauvres cœurs.
Alors, avec une vision comme celle-ci de Dieu, qu'est-ce que ça pourrait m'apporter dans la vie? Eh bien, pas grand-chose. C'est pour ça qu'il est intéressant de se demander sur quoi se fonde ma compréhension de Dieu, sur quoi se fonde mon image de Dieu, et est-ce que je suis d'accord d'accepter la manière dont Dieu se présente lui-même. C'est un petit peu le thème de la chanson de Joan Osborne. Chat ou plutôt chien? Alors je vais m'expliquer. Le chien, il pense.
Oh, mon maître est gentil envers moi.
Il me nourrit. Il me soigne. Il prend soin de moi.
Il doit être Dieu.
Et le chat, il pense.
Oh, mon maître, il est gentil avec moi.
Il prend soin de moi. Il me donne ce qu'il faut. Il me soigne. Je dois être Dieu. Vous voyez, êtes-vous chat ou êtes-vous chien? C'est-à-dire que, en se posant cette question, je me demande qui est-ce qui devrait être au service de qui? Qu'est-ce que ça me rapporterait de croire en Dieu? En fait, je me demande si on n'est pas en train de retourner la question et se dire si vraiment Dieu est là, si vraiment c'est le maître de l'univers, est-ce que c'est pas plutôt à nous de lui apporter quelque chose au lieu d'attendre qu'il nous apporte des bénédictions? Mais d'un autre côté, cette question est aussi très touchante. Puisqu'on peut se poser la question, si vraiment Dieu existe et qu'il ne s'est pas retiré du monde, eh bien, est-ce qu'il s'intéresse à moi? Est-ce que ma petite vie, moi, ce petit point dans l'univers, est-ce que je l'intéresse? Et en fait, la Bible va plutôt dans ce sens-là. Je vais vous lire un petit verset. Car voici ce que dit le Dieu très élevé qui demeure éternellement et qui s'appelle le Saint. J'habite dans un lieu très haut et saint, mais je demeure aussi avec l'homme accablé, à l'esprit abattu, pour ranimer la vie de qui a l'esprit abattu et vivifier le cœur des hommes accablés. Donc on voit que Dieu se présente lui-même comme quelqu'un vraiment de très élevé, mais en même temps qui s'intéresse à une personne qui a le cœur accablé. Et enfin, on peut constater que la question c'est qu'est-ce que Dieu me rapporterait? Ce n'est pas est-ce que Dieu existe vraiment ou est-ce que Dieu est vrai. Mais non, on est là dans une question très postmoderne. Dans l'ère de la modernité, on s'intéressait à découvrir la vérité au moyen de la raison et à récapituler tout le savoir dans un savoir englobant. Mais ici, dans la postmodernité, aujourd'hui, on se réduit à l'échelle de l'individu et on se demande qu'est-ce que ça me rapporterait. On ne s'intéresse plus forcément à ce que c'est vrai, mais qu'est-ce qu'on va en retirer? On veut en fait du concret. Et je pense que c'est une question qui nous touche vraiment. Est-ce que si Dieu existe, il peut nous rapporter du concret dans la vie? Parce que Sartre a écrit dans l'existentialisme et l'animalisme, même si Dieu existait, ça ne changerait rien. Alors la question est de savoir, qu'est-ce que ça change? Est-ce que ça change quelque chose ou pas que Dieu existe? Et on veut en avoir des conséquences sur notre vie. Alors j'ai interrogé différentes personnes, chrétiennes, non chrétiennes, en leur posant la question, qu'est-ce que ça pourrait vous apporter de croire en Dieu? Alors je vous laisse voir leur réponse.
I'm staring at the door. I know it's over cause my baby hit the cold floor. Check my reflection, how you feel what I see. There's no mystery. Whatever happened to the passion I believed for? What became of the dream that made me feel more?
micro-trottoir, si on peut l'appeler comme cela. Et j'aimerais répondre à cette question, qu'est-ce que ça me rapporterait de croire en Dieu, en deux parties. Bon, la deuxième sera plus courte, mais d'abord j'aimerais soulever des aspects positifs qu'apporte le fait de croire en Dieu. Mais je n'aimerais pas vous cacher qu'il y a aussi des aspects plus difficiles au fait de croire en Dieu. Et donc je vais exposer ces deux choses dans cet ordre. Alors regardons d'abord des aspects positifs au fait de croire en Dieu. Et le premier que j'aimerais soulever, c'est que Dieu apporte un sens à la vie. Alors j'ai réfléchi sur la question « la vie a-t-elle un sens ?» pour apporter un exposé, et j'ai été frappé de voir combien des personnes qui ne croient pas en Dieu répondent que la vie n'a pas de sens. Alors, différentes personnes soutiennent ce point de vue-là. Albert Camus, pour lui, le monde est habité par le sentiment de l'absurde. Et voici comment il explique ce sentiment. L'homme se trouve devant l'irrationnel. Il sent, lui, son désir de bonheur et de raison. L'absurde naît de cette confrontation entre l'appel humain et le silence déraisonnable du monde. Et puis il écrit, dans son essai philosophique « Le mythe de Sisyphe », « Mais que signifie la vie dans un tel univers ? Rien d'autre pour le moment que l'indifférence à l'avenir et la passion d'épuiser tout ce qui est donné. » Et il compare l'homme absurde, à Sisyphe. Alors Sisyphe, c'est ce héros dans l'Antiquité grecque qui était condamné toute sa vie à rouler une pierre au sommet d'une montagne en sachant qu'arrivé au sommet, elle allait dégringoler et qu'il devait recommencer à faire cela toute sa vie. Et il qualifie l'homme absurde d'aveugle qui désire voir et qui sait que la nuit n'a pas de fin. Il conclut son effet philosophique par cette phrase tragique, il faut imaginer Sisyphe heureux. Voilà le sens de la vie. Nous sommes condamnés à rouler une pierre et il faut imaginer que nous sommes heureux. D'ailleurs, il avait commencé son essai philosophique par une phrase non moins tragique. Voilà les premiers mots du roman, enfin de l'essai. Il n'y a qu'un problème philosophique vraiment sérieux, c'est le suicide. Juger que la vie vaut ou ne vaut pas la peine d'être vécue, c'est répondre à la question fondamentale de la philosophie. D'autres personnes soutiennent que la vie est absurde, n'a pas de sens. Jacques Monod, prix Nobel de physiologie en 1965, a dit ceci, « L'ancienne alliance est rompue. L'homme sait enfin qu'il est seul. Dans l'immensité indifférente de l'univers d'où il a émergé par hasard, non plus que son destin, son devoir n'est écrit nulle part. À lui de choisir entre le royaume et les ténèbres. » Et Jean-Claude Amezen, qui est professeur d'immunologie à l'université Paris Diderot, qui est également depuis 2012 le président du Conseil consultatif national d'éthique, dit ceci, « Depuis Darwin, nous savons les fruits du hasard, apparus via un processus long et compliqué, et surtout sans la moindre feuille de route, dépourvu de toute mission spéciale. La nature ne nous a jamais rien dit de ce que nous sommes censés faire. C'est à chacun qu'il incombe de l'imaginer, pour ce qui le concerne. » Mais la croyance en Dieu, au Dieu de la Bible, nous donne un tout autre éclairage sur le sens de la vie. Au contraire, la Bible affirme qu'il y a un sens à la vie. La vie humaine a un sens. Et la Bible le souligne en donnant une origine, une destinée et aussi une mission à la vie humaine. En fait, pour donner du sens à une vie, il faut savoir d'où je viens, où je vais et qu'est-ce que je fais entre les deux. Alors, d'où je viens ? Eh bien, la Bible, si vous ouvrez la première page de la Bible, il est écrit « Au commencement, Dieu créa ». La vie humaine vient du projet créateur de Dieu. Il est dit tout petit peu plus loin, Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rentrent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, homme et femme, il les créa. Donc de manière générale, la vie humaine est voulue par Dieu, mais de manière aussi plus personnelle, la vie de chacun d'entre nous est aussi voulu par Dieu. Un roi dans l'Antiquité, à peu près 1500 ans avant Jésus-Christ, a écrit ce poème. C'est toi qui a formé mes reins, qui m'a tenu caché dans le sein de ma mère. Je te célèbre, car je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont des merveilles, et mon âme le reconnaît bien. Mon cœur n'était pas caché devant toi, lorsque j'ai été fait en secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui étaient fixés, avant qu'aucun d'eux n'existe. Voilà de manière très personnelle un individu qui a reconnu que sa vie n'était pas due au hasard, mais qu'elle était due au projet de Dieu. Dieu a voulu non seulement la vie humaine en général, mais aussi votre vie en particulier, bien avant même le projet de vos géniteurs. D'où je viens ? Voilà d'où je viens. Où je vais ? La Bible aussi est très claire sur la destinée de l'homme. Il est écrit « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Cette phrase biblique, déjà on peut le remarquer, exclut la réincarnation puisqu'il est dit qu'il faut mourir qu'une seule fois. Mais en plus, elle souligne que la vie humaine ne s'arrête pas à la mort physique. Après, il y aura un jugement. Et l'issue de ce jugement déterminera la destinée éternelle de la personne. Alors nous reviendrons sur ce point dans une petite minute lorsque je parlerai de l'espérance qu'apporte le fait de croire en Dieu. Alors, d'où je viens ? Je sais que je viens d'un projet créateur de Dieu. Où je vais ? Je sais que ma vie ne s'arrêtera pas à cette mort physique, qu'il y aura un jugement et après une destinée éternelle. Mais qu'est-ce que je dois faire entre les deux ? Eh bien, le texte de la Genèse que nous avons lu il y a quelques instants nous montre que ce que nous avons à faire entre les deux, c'est d'être l'image de Dieu sur terre. Dieu créa l'homme et la femme à son image. Nous sommes censés refléter Dieu, refléter sa gloire autour de nous. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, refléter la gloire de Dieu ? Alors très schématiquement, on peut retenir, c'est très simple, il faut penser avec notre tête, ressentir avec notre cœur et agir avec nos mains. Penser avec notre tête, nous sommes appelés à penser les pensées de Dieu. Nous sommes appelés à nous mettre en accord avec la vérité de Dieu révélée dans la Bible. Ressentir avec notre cœur. Nous sommes appelés à haïr l'injustice, à aimer nos prochains. Nous sommes appelés à nous réjouir de la rédemption et à pleurer les conséquences de la rébellion contre Dieu. Et enfin, agir avec nos mains. Nous sommes appelés à servir les personnes autour de nous, à poser des actes de générosité. Et lorsque nous faisons ces trois choses, eh bien, nous reflétons l'image de Dieu sur la terre, nous reflétons sa gloire pour la terre, et en faisant cela, nous formons un acte d'adoration. Alors je précise que lorsque je dis que le but, c'est de refléter la gloire de Dieu, je ne dis pas ça pour rabougrir la vie humaine, pour nous priver, on pense qu'il y a beaucoup d'interdits, mais c'est au contraire, lorsque nous faisons ça, que nous pouvons profiter pleinement de la vie. Un théologien du IIe siècle, Irénée de Lyon, a écrit « La gloire de Dieu, c'est un être humain qui vit pleinement. » C'est ça, refléter la gloire de Dieu, c'est pas vivre une vie rabougrie, une vie d'interdit, c'est vivre enfin la vie pleine. C'est par exemple avoir des amis, faire l'amour dans le cadre du mariage, boire un verre, étudier, faire du sport. Tout cela, c'est rendre gloire à Dieu, à condition qu'on ne préfère pas ces choses au Créateur lui-même de ces choses. À condition qu'on sache remercier le Créateur de toutes ces choses. Alors voilà un petit peu pour le sens de la vie. La Bible affirme fortement que croire en Dieu nous rapporte un sens à la vie. J'aimerais parler maintenant d'un autre point. Dieu apporte le pardon. Qu'est-ce que ça me rapporterait de croire en Dieu ? Ça me rapporterait d'avoir un sens à la vie, mais aussi le pardon. Je me souviens d'une discussion avec une dame. Elle n'était pas opposée à la foi chrétienne, mais elle ne voyait pas vraiment ce que la foi chrétienne pouvait apporter dans sa vie. Elle était très heureuse. Et je remercie vraiment Dieu le Créateur que cette personne soit heureuse. Mais quand même, à un moment donné, je lui ai posé la question : que faites-vous avec la culpabilité ? Et là, la dame semblait interpellée. Comment gérer la culpabilité? Que faire avec le poids de nos mauvaises actions? Selon le psychanalyste Jacques Lacan, la colère, la joie, mais aussi la culpabilité font partie des sentiments les plus universels. Et certaines personnes se gâchent la vie à cause de la culpabilité. Certaines personnes s'interdisent d'être heureuses à cause de la culpabilité, et cela peut aller même jusqu'au suicide. Alors Elton John avait bien dit que « pardon » semblait être le mot le plus difficile à dire et peut-être aussi le plus difficile à recevoir. Je vous laisse écouter.
Pratiquer le bien tout le temps, c'est ce qui est attendu. Ça ne peut pas racheter
une erreur. Donc, si Dieu est un Dieu de pardon, et que le pardon ne peut pas venir de l'homme, comment expliquer la présence du pardon? C'est que le pardon est rendu possible par Jésus-Christ. Dieu, devenu homme, a pris la condamnation que méritaient nos fautes, nos attitudes de cœur rebelles à Dieu. Et il y a 2000 ans, il est mort sur une croix. C'est pour cela que l'on voit beaucoup de croix dans les églises. Cela représente la mort de Dieu venu sur la terre, qui a porté les péchés de l'humanité. Sa vie a été sacrifiée pour que la nôtre puisse être pardonnée. C'est lui qui a subi le châtiment que méritaient nos fautes. Un verset l'explique très bien. Christ aussi est mort une seule fois pour les péchés, lui le juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Ce qui était impossible aux hommes, acquérir le pardon, a été rendu possible par Dieu. Et c'est exactement ce que Jésus a répondu lorsque quelqu'un dit « Mais alors qui peut être sauvé si nous ne pouvons pas nous pardonner nous-mêmes ?» Et Jésus a répondu « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Il est ainsi possible d'être pardonné, d'être justifié devant Dieu. Et un verset dit qu'il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pour ceux qui ont reconnu que Jésus est Dieu venu sur terre, qu'il a porté les péchés en mourant sur la croix, il n'y a plus aucune condamnation. Quelle annonce formidable! Qu'est-ce que Dieu peut m'apporter dans la vie? Dieu peut m'apporter le pardon. La foi en Dieu apporte aussi, je dirais, une nouvelle dimension, un nouveau regard sur le monde. Lorsque nous recevons ce pardon, nous entrons dans une relation qui va être restaurée avec Dieu. Et alors, nous devenons enfants de Dieu. Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, nous dit un verset de la Bible. Et alors là, c'est une nouvelle dimension qui s'ouvre. Un nouveau regard sur le monde. L'Esprit de Dieu vient habiter en vous. Il vous apporte amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, douceur, maîtrise de soi. L'Esprit vient changer votre vie petit à petit pour la rendre de plus en plus belle, de plus en plus en harmonie avec le Créateur et avec les autres. Et personnellement, je dirais que ce point-là change beaucoup de choses. C'est vraiment une nouvelle dimension à la vie. Tout ce que je vis, eh bien, je le vis dans ma relation avec Dieu. Lorsque je passe par des moments de joie, eh bien, ça me permet de remercier Dieu. Lorsque je passe par des difficultés, ça me permet de le prier. Lorsque je rencontre quelqu'un, je considère cette personne comme image de Dieu, et donc mon regard aussi par rapport à cette personne va être transformé. Je sais à la fois que le monde est précieux, et donc qu'il faut en prendre soin, mais je sais en même temps que ce n'est pas le but final, et donc cela permet aussi de relativiser certains problèmes. Et je vous dirais, faites l'expérience une fois d'essayer d'aimer toutes les personnes que vous croisez dans une journée. Vous allez voir, ça change la vie. Quand vous prenez le bus, vous vous mettez à côté de quelqu'un et vous dites, je vais essayer de l'aimer. Et voilà, c'est une nouvelle dimension qui peut démarrer lorsque vous acceptez le pardon. C'est comme si vous enfiliez des lunettes 3D et que là, vous voyez toute chose dans une relation à Dieu. C'est une nouvelle orientation, de nouvelles valeurs qui se mettent en place. D'ailleurs, dans Le Petit Prince, il était déjà dit « L'essentiel est invisible pour les yeux ». C'était le renard qui disait cela. Mais plus sérieusement, l'apôtre Paul, bien avant lui, disait quelque chose qui ressemble « Nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. » Une nouvelle perspective se met en place lorsque nous sommes dans une relation à Dieu. Nous avons d'autres priorités, d'autres orientations. Les choses essentielles nous sont maintenant ouvertes. Une espérance. Qu'est-ce que Dieu peut me rapporter dans la vie? Dieu peut me rapporter une espérance. Alors j'ai déjà un tout petit peu parlé de cela lorsque j'ai abordé le sens de la vie. Quand je vous ai dit, il faut savoir d'où on vient, où on va et qu'est-ce qu'on fait entre les deux. Donc où on va? La vie humaine ne s'arrête pas. directement à la mort. Il y a ensuite un jugement et deux issues. Alors ceux qui ont accepté le pardon accordé par Jésus, ils vivront l'éternité avec Dieu. Il est dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est cela l'espérance qu'accorde le fait de croire en Dieu. Il s'agit d'une espérance formidable, d'une vie débarrassée du mal, débarrassée de la souffrance, une vie caractérisée par la joie. Alors, c'est un lieu où la souffrance a disparu, et on peut lire un verset qui dit que Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni souffrance, car le monde ancien a disparu. Il s'agit de revivre à nouveau dans une parfaite relation avec Dieu et les autres. Et cette espérance est certaine pour ceux qui croient au sacrifice de Jésus pour le pardon des péchés. La Bible dit en effet, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. C'est une promesse. Et Jésus rajoute, un peu plus loin, nul ne le ravira de ma main. Il s'agit d'un changement total de statut, une nouvelle vie, une vie nouvelle, une vie éternelle nous est promise. En revanche, pour ceux qui refusent le pardon de Dieu accordé en Jésus-Christ, eh bien ils seront condamnés pour l'éternité dans un lieu qu'il décrit très négativement comme un lieu de pleurs et de grincements de dents. Alors ces deux termes évoquent respectivement la tristesse et le remords. Alors je dis cela avec des mots simples, mais il s'agit en fait de réalités extrêmement fortes, à peine imaginables. Et souvent je pense qu'on a une fausse image du paradis, ou une fausse image de l'enfer d'ailleurs. Le paradis ce n'est pas chanté sur un petit nuage à moitié nu avec une harpe, sinon cela ne donnerait pas très envie. Mais le paradis c'est vivre une vie dans un corps, en parfaite harmonie avec Dieu et avec les autres. Et j'ai envie de dire, si vous aimez la vie sur terre, vous aimerez encore plus la vie au paradis. Et cela est vraiment une espérance formidable. Si votre vie est ratée, si vous vivez dans la souffrance, ou si vous vivez une situation d'injustice, sachez qu'une vie nouvelle vous est promise par Dieu si vous placez votre foi en Jésus-Christ. Ce n'est pas la fin. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Si vous perdez votre travail, si votre appartement prend feu, si vos amis qui sont chers vous quittent, sachez que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Il y a une espérance pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Lorsque la maladie frappe violemment, le chrétien sait que ce n'est pas le dernier mot. Un jour, la mort sera vaincue. Et Jack Johnson, dans sa magnifique chanson « If I Could », dit en parlant d'un ami, je vous laisse écouter.
I heard some words from a friend on the phone, it sounded so good. The doctor gave him 2 weeks to live, I'd be more if I could.
Change à toute vitesse. L'avancée technologique, l'avancée avancée médicale, la croissance des villes, l'accélération de la communication, l'évolution des mœurs, provoquent beaucoup de changements et de questionnements. Et nous avons besoin de références, nous avons besoin de fondements. Et Dieu propose un fondement solide pour notre vie. Je me souviens avoir discuté avec quelqu'un qui commençait à s'intéresser à la foi chrétienne parce qu'il était militaire. Il a été envoyé au Mali, il a vu ce qui se passait là-bas, il a vu aussi comment les militaires se comportaient dans leurs casernes. Et il a dit, il faut que je trouve Dieu, sinon je ne saurais jamais comment me comporter. Dieu apporte un fondement solide. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus utilise une histoire pour montrer l'importance de baser sa vie sur son enseignement, sur un fondement solide. Alors, cette histoire a été reprise dans le dessin animé « Il était une fois Jésus », donc je vous laisse découvrir.
Peut-être mettre un peu de sa voix et écouter. Suivez mon enseignement à la lettre. Si vous le faites, alors vous serez semblable à un homme d'une grande sagesse qui choisit de construire sa maison sur un rocher. En revanche, celui qui écoute ce que je dis sans s'y conformer est semblable à un homme stupide qui construit sa maison sur le sable. Construisez votre vie comme on construit une maison, sur de bonnes fondations. Ne vous contentez pas de la solution de facilité, choisissez la difficulté. Écoutez mes paroles, laissez-les vous imprégner. Ouvrez votre cœur et votre esprit à la vérité. Préparez-vous pour le jour où les ennuis s'annoncent, où la difficulté se dresse, une tempête affreuse rage autour de vous.
Nous avons vu que Dieu pouvait nous rapporter un sens à la vie, pourrait nous apporter le pardon, que cela entraîne une nouvelle dimension, un nouveau regard. Il nous offre une espérance sûre et un fondement solide. Mais Jésus, sur la terre, a prévenu aussi que tous ceux qui voulaient s'engager à sa suite, eh bien, ils ne vivraient pas seulement le long d'un long fleuve tranquille, mais qu'au contraire, ils auraient des difficultés. Il a même répondu à quelqu'un qui voulait le suivre, « Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas opposé sa tête. » Alors je me permets, à l'exemple de Jésus, de vous présenter peut-être des aspects difficiles qui sont liés aussi au fait de croire en Dieu. Alors, croire en Dieu peut amener des difficultés. Tout d'abord, bon, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, le chrétien n'est pas exempté de toutes les difficultés du monde. Il peut traverser la maladie, il peut traverser le chômage, mais Dieu promet sa présence même dans ces moments difficiles. Il promet sa présence quotidienne et son réconfort dans toutes circonstances. Mais il faut savoir que suivre Dieu, ce ne va jamais être facile, c'est un peu comme nager à contre-courant. Dans un monde qui a rejeté le Christ au point de le crucifier, il ne va jamais être facile de croire en lui. Et la société qui nous entoure est très matérialiste et souvent n'a pas grand-chose à faire de Dieu. Alors il ne va pas être facile de vivre selon les principes de Dieu dans une société qui le rejette. Obéir aux principes de Dieu peut vous attirer parfois un petit peu de rejet ou de moquerie. Par exemple, si vous dites que les Roms sont dignes de respect, vous allez voir que tout le monde n'apprécie pas cela. Ou par exemple, si vous dites que télécharger un film sur Internet sans l'avoir payé, c'est malhonnête. Peut-être que vous serez un petit peu moins populaire. Mais peut-être un peu plus gravement, il faut savoir que depuis leur apparition, eh bien, les chrétiens ont connu la persécution. Ils connaissaient la persécution au 1er siècle dans l'Empire romain parce qu'ils affirmaient que c'était Jésus le Seigneur. Et cela entrait en contradiction avec la déclaration que c'était l'empereur le Seigneur, c'est-à-dire le maître absolu. Et cela leur a valu la torture et la mort. Mais encore aujourd'hui, une association qui travaille parmi les minorités chrétiennes persécutées dit que 2000 chrétiens sont morts persécutés en 2013. Et jeudi dernier, je suis allé au centre pénitentiaire où je suis aumônier, et un des détenus m'a raconté que lorsqu'il se présentait pour se rendre au culte le samedi matin, eh bien, il subissait une espèce de persécution, en tout cas la moquerie de ses camarades qui se mettaient un petit peu en haie d'honneur, et dès qu'il passait, il disait culte, 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 pour se moquer de lui. Donc vous voyez, encore aujourd'hui, peut-être que croire en Dieu pourra vous apporter des difficultés. Mais quand je dis difficulté, pour moi ce n'est pas le contraire de joie, puisque Dieu, dans tout cela, peut accorder sa joie. Je veux dire aussi que croire en Dieu demande des efforts. Je suis actuellement étudiant dans un institut biblique, j'étudie la théologie, et parfois, croyez-moi, pour comprendre vraiment un texte biblique, ça demande des efforts. Il faut prendre du temps, et c'est du temps en moins à regarder la télé ou à surfer sur Facebook. Apprendre à connaître Dieu demande quelques efforts. Mais je dirais aussi, surtout, l'essai de se conformer à son caractère. Ça demande des efforts. Tout le monde est d'accord pour dire que le principe d'aimer son prochain, ben c'est bien. Par contre, le faire, c'est plus difficile. Je pense aussi aux autorités chrétiennes de la République Centrafrique qui ont demandé à leurs fidèles de ne pas se venger, mais de pardonner. Qu'est-ce que cela doit être difficile lorsqu'on a nous-mêmes subi de la violence? L'obéissance demande des efforts. Encore une fois, cela n'est pas incompatible avec la joie, puisque Dieu promet sa présence au quotidien. Et je dirais, dernière chose, Dieu demande des comptes. Nous l'avons vu, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi viendra le jugement. Dieu se pose en juge du monde et un jour, il jugera aussi nos actions. Et ces jugements sont terribles. L'année dernière, à l'Institut biblique, nous avons étudié le livre de l'Apocalypse et nous pouvons voir comment les jugements de Dieu sont terribles. Alors je pense que vous avez vu ce film très rigolo. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Alors, c'est un film où on rigole, c'est un titre très léger, mais finalement, la question posée dans le titre est l'une des plus importantes. Qu'est-ce que j'ai fait de Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait de son offre de salut? Et qu'est-ce que j'ai fait de son fils Jésus? Alors, qu'est-ce que ça me rapporterait de croire en Dieu? Dieu peut nous apporter de belles choses comme un sens à la vie, le pardon, une nouvelle dimension, l'espérance et un fondement solide dans une société qui bouge beaucoup. La confiance en Dieu peut aussi nous coûter quelque chose. Nous avons parlé rapidement que nous allons peut-être être à contre-courant de la société, que nous subirons peut-être aussi la persécution, que cela demande des efforts, surtout le fait de se conformer au caractère de Dieu. Mais maintenant, je vous propose d'écouter le parcours de vie d'un ami à moi qui est venu aussi pour raconter comment lui, dans sa vie, Dieu lui a apporté quelque chose. Donc, sans plus tarder, je laisse la place à mon ami Gaël pour qu'il nous raconte, répondre à sa manière, qu'est-ce que Dieu peut rapporter dans la vie.
Alors, qu'est-ce que ça me rapporterait de croire en Dieu? À la suite de Thomas, je vais apporter un élément de réponse à cette question, mais à partir d'une expérience personnelle et l'expérience d'une vie personnelle. Je suis Gaël, d'origine camerounaise. Je suis né au Cameroun, où j'ai grandi, dans une famille, pas vraiment chrétienne, mais on n'était pas musulmans, donc voilà, on pourrait se dire chrétien. Et une famille, je suis. Le Cameroun, c'est beaucoup d'ethnies. Moi, je suis Bandéké. Ceux qui connaissent un peu le Cameroun savent que c'est. Les Bandéké, c'est des personnes qui font le culte des crânes, le culte de. Qui font beaucoup de sorcellerie. Et je suis né dans une famille royale, entre guillemets, ça fonctionne encore comme ça aujourd'hui. Et donc, famille royale, c'est des familles qui sont garantes un peu des traditions ancestrales. Des familles qui doivent garantir le culte des morts et le culte des ancêtres. Ça impliquait que j'ai été très tôt initié à toutes sortes de pratiques, à toutes sortes de maraboutages. J'ai été scarifié et je porte encore les marques sur le corps aujourd'hui. Une vie là-dedans avec toute ma famille et petit, j'étais plutôt gentil. Assez intelligent, celui avec qui les gens voulaient passer du temps. Mais il faut dire que les choses ont dégringolé à partir d'un certain moment. Vers l'âge de 11-12 ans, j'ai commencé à voler. J'ai commencé à voler un peu. Et très rapidement, je suis devenu un très bon voleur, un très grand voleur. J'ai intégré une bande de voyous. On appelait les dealers parce qu'on dealait tout ce qu'on pouvait, tout ce qu'on avait sur la main pour avoir de l'argent. Très rapidement aussi, la violence a pris le dessus. Je suis devenu quelqu'un de très violent avec une colère noire qui s'emportait. Je m'emportais mais très rapidement. C'est pour ça que je me battais pour un oui et pour un non aussi. Je suis devenu le leader de ce groupe-là. Et les relations avec mes parents ont commencé à s'effriter, à se rompre, jusqu'à ce que je devienne violent, même dans la maison, avec ma maman, que je menaçais tous les matins, que je faisais pleurer tous les matins, mes frères et mes sœurs aussi. À 15 ans, les problèmes avec la justice ont commencé parce que je faisais non seulement du trafic, mais je commençais à. J'organisais des passes entre les filles du lycée et les profs du lycée, les filles du lycée et les autorités de la ville dans laquelle j'étais pour avoir de l'argent, pour pouvoir boire et pour continuer les trafics. 15 ans, donc je suis allé au tribunal et voilà, c'était le début des ennuis avec la justice. parents qui se sont complètement détruits. Je suis devenu infréquentable. Il ne fallait plus me parler parce que juste de me parler ou juste de traîner avec moi, ça cataloguait, ça donnait une étiquette tout de suite. À plus forte raison quand c'était une fille qui traînait avec moi, et ben, l'étiquette était toute faite. Donc j'ai changé de ville, je suis allé ailleurs où j'ai. Enfin, la première bande, le premier gland s'est cassé. Je suis parti ailleurs dans une autre ville où j'ai démarré une nouvelle bande, cette fois-ci avec des personnes beaucoup plus âgées que moi. Et une fois de plus, bah, j'étais un bon leader, quelqu'un qui m'aimait. Il m'appelait Gaello Mariano. C'était un petit clin d'œil à la mafia italienne. Parce que je concevais tous les plans. Quoi qu'il fallait voler, où qu'il fallait aller voler, j'étais capable de trouver un plan, de trouver une solution, de trouver une stratégie pour le faire, pour dealer tout ce qu'on tenait dans les mains. Je ne pensais pas vraiment à Dieu dans ces moments. De temps en temps, j'y pensais, mais je me disais, bah, parce qu'au fond, moi, je croyais qu'il y a un Dieu qui existe, mais j'étais tellement suffisant, tellement satisfait, tellement plein de la vie que je menais, avec cet orgueil, et pour moi, tout tournait autour de moi. J'étais le centre de tout. Et quand je parlais, ma petite soeur m'appelait l'autre jour, elle me disait, est-ce que tu te souviens quand tu parlais, tu disais, quand je parle, c'est Dieu qui parle. Tellement que j'étais orgueilleux, tellement que je contrôlais et que je pouvais avoir une influence, j'étais Dieu, mais j'avais une influence qui pouvait, qui avait des limites assez poussées quand même. Je disais peut-être que Dieu existe, mais je suis suffisant dans ce que je vis. J'ai tout ce qu'il me faut. Et si Dieu, si tu existes, vis ta vie de cette façon. Et moi, je vivrai la mienne comme ça. Il ne faudrait pas qu'il y ait de parallèle. Il ne faudrait pas qu'on se croise. Je suis devenu très raciste aussi. J'aimais l'argent des blancs plutôt qu'un blanc. J'aimais l'argent des blancs. J'aimais l'intelligence des blancs. Je détestais profondément les blancs. Et quand je pensais, j'avais pas juste envie de frapper un blanc, mais je me disais, j'en croise un dans le noir, ce serait pas avec un fusil ni avec un couteau. J'aimerais juste lui arracher la tête de son corps pour qu'il pense un peu à. Et je justifiais tout ceci par l'histoire de mon peuple. Je regardais très régulièrement un film, je ne sais pas si vous connaissez, Patrice Lumumba. C'est un film qui parle de la décolonisation du peuple Congo. Et je regardais très régulièrement ce film pour attiser, pour animer, pour garder chaud la haine que j'avais dans mon cœur. Et cette haine, finalement, je croyais que c'était juste contre les blancs. Mais je détestais tout le monde finalement, parce que cette haine a fini par me gagner complètement. Je suis devenu un garçon colérique qui frappait, et quand je frappais, c'était pas juste pour frapper, mais j'avais envie de faire mal et de faire coller le sang encore et encore, et c'est ce que je faisais à chaque fois. J'ai continué de boire, et je buvais. Pas juste quand je sortais avec des amis. Je ne pouvais plus fonctionner sans l'alcool. Il fallait que je boive pour pouvoir tenir. Je me couchais avec une bouteille et je me levais avec une bouteille. Je n'allais pas boire avec des amis, j'allais boire tout seul dans un bar parce que je ne pouvais pas faire autrement. Un soir, je suis sorti avec une nombreuses filles avec lesquelles je sortais. J'étais alcoolisé comme d'habitude. On s'est fait agresser. J'étais humilié comme j'avais jamais été humilié dans ma vie. J'étais violé. suis rentré chez moi. Il s'était passé quelque chose dans mon cœur. Le Tout-Puissant n'était plus Tout-Puissant. Celui qui contrôlait et qui maîtrisait tout ne contrôlait plus rien et ne maîtrisait plus rien. Des fois, je me demandais si j'étais mal vis-à-vis de cette fille ou alors par rapport à mon propre orgueil. Là, les choses se sont empirées. Tout allait de travers. Des personnes ont été blessées, sont rentrées dans le coma, des personnes sont mortes. Mais il se trouve qu'un soir, malgré le fait que je cherchais pas Dieu, je n'avais pas du tout besoin de Dieu. Je me sentais bien et complet et épanoui et suffisant dans ce que je vivais. Je me souviens d'un camarade d'ailleurs, Thomas, qui était chrétien, qui parlait de Jésus, mais qu'est-ce qu'il en a souffert Thomas lui aussi? Parce que même parler de Dieu, oui, on pouvait croire en Dieu, mais il ne fallait pas m'en parler. Donc là, je posais le pied, et qu'il me touchait, et je me frappais. Mais un soir, j'étais chez moi, 17h, alcoolisé comme d'habitude. Et il s'est passé quelque chose que j'ai souvent du mal à expliquer, parce que je ne sais pas. J'avais une Bible, il y avait une Bible que ma mère m'avait offerte, parce qu'il faut dire que à 14 ans, quand je suis rentré dans la première bande du royaume, mes parents m'avaient senti, ils avaient senti que je virais, et ils m'ont proposé de faire du catéchisme, en espérant que ça me change. J'ai fait le catéchisme, j'ai même reçu le baptême, mais si je dois vous dire ce que j'ai fait ce même jour du baptême. Et donc, à la suite de ce baptême, j'avais une Bible que je tenais, que je gardais chez moi. Mais, voilà, je ne l'ouvrais jamais, je savais qu'elle était là. Mais, ce soir, donc, où je suis alcoolisé, j'ai pris cette Bible. Je l'ai ouverte, je ne vous passe les détails. Je l'ai ouverte, je ne savais pas comment elle était, donc je l'ai juste ouverte comme ça. Mais je suis tombé sur un verset. Romains chapitre 5, le verset 8, qui dit « Mais Dieu prouve son amour pour nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Ça résonnait trop fort pour moi. Et puis je me suis dit, c'est certainement pour les autres, pour les personnes qui sont bien, pour les personnes qui sont gentilles et qui vivent dans la morale. Je vais fermer la Bible, je vais poser, je me suis couché, je me suis dit, je dors et demain sera un autre jour. Jusque quand je me couche, impossible de dormir. Et ce verset qui résonne dans ma tête, comme si je le connaissais avant. Mais Dieu prouve son amour pour nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Après avoir, bien entendu, je me suis battu, j'ai résisté. Et finalement, je me suis décidé à reprendre la Bible en me disant peut-être que je me fais des nœuds dans la tête pour un truc qui ne me concerne même pas. Il faut que je regarde un peu l'histoire, les choses qui s'écrivent avant. Je ne savais pas où ce truc a été écrit dans la Bible. Et je l'avais fermé la Bible. Ah, j'ai galéré ce soir. Bon, déjà, j'avais éteint parce que j'étais en colocation avec quelques personnes de ma banque. Et je me sentais très, très, très mal. Je croyais que c'était l'alcool, mais finalement c'était pas l'alcool. Et j'étais vraiment très 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 mal. Donc la lumière était éteinte. Avec la lumière de mon téléphone, j'ai tourné la Bible. J'ai tourné jusqu'à 4h du matin. De minuit à 4h du matin. Et je suis retombé. Aujourd'hui, je peux lire un passage, un verset. Après, je le ferme. Et Deux secondes après, tu me dis « Vas-y, retrouve le verset que t'as lu. » Et ben, je serais pas capable. Mais ce soir, là, je l'ai retrouvé. J'ai lu un peu plus haut. Et je me suis rendu compte que, ben, en fait, tout ce qui est écrit, c'est écrit que c'est dans cette faiblesse, c'est dans notre faiblesse que Dieu s'est révélé. C'est à cause de notre péché, justement, que Dieu s'est fait Jésus-Christ et est mort à la croix. Là, je me sentais mal. Je me sentais pas mal, pas parce que je comprenais ce verset, mais parce que ça entrait en résonance avec ce que mon père m'avait dit une fois, parce que les personnes avec qui je volais sont mortes, enfin quelques-unes étaient mortes. Bah, au Cameroun, quand on attrape un voleur, on le met dans des roues, enfin, on fait passer des roues sur lui, on verse de l'essence et on le fait cramer. Donc il y en avait quelques-uns qui étaient morts de cette façon. D'autres étaient morts parce qu'on avait tiré sur eux et d'autres étaient en prison. Et donc mon père m'avait dit une fois, parce que ma soeur avait fait une bêtise et il disait à ma soeur, si tu veux faire comme ton frère, lui, tu ne peux pas le sacrifier pour lui. Tu sais qu'il est perdu. Et là, ce soir, je voyais que mais Dieu prouve son amour pour nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Je sentais une sorte de tension et de collision entre ces deux choses. D'un côté, mon père biologique, et de l'autre côté, celui qui finalement est devenu mon père en toutes choses. Je sentais une sorte de tension. Et il y avait une église à côté de chez moi. J'y suis allé, il était 4h du matin, j'y suis allé. Bon, je ne savais pas trop pourquoi il y allait, mais... Il y a des personnes qui sont arrivées, 5h30, il y a des gens qui arrivaient. Bon, plus tard, on m'a expliqué, c'est des personnes qui venaient prier, qui venaient intercéder. Ils priaient à l'église de 5h30 à 6h30 et ils priaient pour que Dieu sauve. Ils priaient pour que Dieu sauve des gens dans le quartier. Donc je suis arrivé, je me suis assis tout devant. Je voulais entendre parler de ce Jésus, à savoir qui il est. Les gens sont arrivés, le pasteur est venu, il a parlé, il n'a pas parlé de ma vie. Il n'a rien dit me concernant, mais il a parlé d'amour, d'un amour que je ne connaissais pas. Tout ce que moi je connaissais, c'était la violence et la haine et la part des dames. Tout le monde est parti après, je suis resté tout seul. On aurait dit que des lumières s'allumaient dans ma tête. Et là, je prenais conscience de mon péché finalement. Je prenais conscience que ce que j'avais fait et ce que je faisais était mal. J'ai beaucoup pleuré, quand j'ai levé la tête, j'étais allongé à même le sol, le dos contre le sol. Et il y avait une croix dans l'église. Je regardais cette croix et je ne comprenais rien. C'est plus tard que j'ai compris. Voilà quelques minutes d'histoire de ma vie. Mais qu'est-ce que moi ça me rapporte de croire en Dieu aujourd'hui? Premièrement, ceux qui me connaissent savent que je suis très loin d'être quelqu'un de parfait. Très, très, très loin. Mais ce que ça m'apporte aujourd'hui, c'est malgré la responsabilité que j'ai face à mes actes, à ce que j'ai fait, à la souffrance que j'ai infligée aux gens, je suis rassuré de quelque chose, du pardon comme Thomas disait tout à l'heure. Je sais que je suis pardonné en Dieu, des personnes m'ont pardonné, d'autres ont du mal, mais je sais qu'en Dieu je suis pardonné et le poids de la culpabilité est ôté. Qu'est-ce que personnellement ça m'apporte de croire en Dieu? C'est une vie avec espérance maintenant, une vie avec l'espérance de vivre éternellement avec Dieu. De façon concrète aussi, qu'est-ce que ça m'apporte? Un sens à ma vie. J'ai arrêté de boire. C'est les addictions sont tombées. J'ai arrêté la violence aussi. Ça fait du bien de ne de pas recevoir de coups pour maintenant. Je me comprends. Et ça, c'est cette peine-là. Ça aussi, je trouve en ça un bien par rapport à ma foi aujourd'hui. Qu'est-ce que ça m'apporte de croire en Dieu aujourd'hui? Eh bien, ça m'apporte d'avoir une vie équilibrée. Équilibrée parce que il y a quelqu'un, j'ai lu une phrase, il disait que les deux jours les plus importants dans la vie d'un homme, c'est le jour où il naît et le jour où il comprend pourquoi il est né. J'ai compris pourquoi je suis né et ça équilibre ma vie. Ben, voilà, c'est une histoire personnelle de ce que ça pourrait apporter à Dieu. Et ce qui est sûr, c'est que ça restera mon histoire à moi. On pourra en écouter beaucoup d'autres. Mais ce que ça rapporterait de croire en Dieu, on peut se poser la question de l'extérieur et continuer de se poser la question. Et passer le temps à se poser la question. Vous êtes déjà certainement allé devant, enfin, chez Auchan. On arrive à l'entrée et il y a les portes automatiques. On peut rester de l'autre côté et se poser. Et se poser la question, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'Auchan? Il y a des personnes qui vont rentrer et qui ressortiront et qui diront « Voici ce qu'il y a à l'intérieur dans Auchan, voici ce qu'il y a à l'intérieur dans Auchan. » Mais ça restera leur vision, ça restera leur histoire. Tant qu'on n'aura pas franchi le pas, tant qu'on ne se serait pas avancé pour laisser la porte s'ouvrir, et bien on pourra continuer de se poser la question « Qu'est-ce que ça me rapporterait de croire en Dieu ?» Je remets la parole à Thomas.
Merci beaucoup, et on s'est posé la question qu'est-ce que ça me rapporterait de croire en Dieu. On a essayé de répondre de plusieurs manières. On a essayé de relever le défi de répondre, et moi j'ai à mon tour envie de vous poser une question. C'est finalement quelle place vous donnez à Dieu dans votre vie pour qu'il agisse et qu'il vous rapporte quelque chose? Quelle place vous lui donnez? J'aimerais aussi vous poser la question, mais voulez-vous recevoir quelque chose de la part de Dieu, parce qu'il est prêt à vous offrir quelque chose. Êtes-vous prêt à croire au sacrifice de Jésus pour le pardon de vos péchés et à marcher à sa suite? Alors si c'est le cas, je vous invite à l'issue de cette soirée de venir me voir, Gaël ou moi-même. Et si vous dites c'est vrai, j'ai envie que Dieu change quelque chose dans ma vie, eh bien c'est possible et nous serions heureux de prier avec vous pour vous accompagner dans cette démarche. Mais peut-être que vous avez encore des questions, des choses n'ont pas été claires, vous n'avez pas été d'accord avec quelque chose, donc Gaël et moi on se propose de répondre à vos interrogations, à vos questions, si vous voulez un complément d'information ou exprimer un désaccord. Voilà, la parole est à vous. C'était clair, vous avez besoin de compléments. Ah, oui. Lorsque l'on prie, lorsque l'on obéit à Dieu. Et donc, par nos propres mots, on peut simplement reconnaître son état, reconnaître notre faute, reconnaître notre attitude de cœur qui fait souvent de nous-mêmes notre propre Dieu, le dire à Dieu, tout simplement, lui demander pardon. Et dire que l'on veut placer donc son espérance dans le sacrifice de Jésus, parce que lui a pris ce poids, cette culpabilité, cette faute, cette condamnation, et l'a portée. Et donc, en fait, en acceptant que Jésus n'est pas simplement mort, voilà, d'un point de vue historique et c'est tout, mais d'un point de vue spirituel, que sa mort avait une signification spéciale pour ma vie, parce qu'il a été celui qui a donné sa vie en rançon pour les péchés, et bien, tout simplement, en exprimant ceci avec nos propres mots dans la prière, et bien, nous pouvons recevoir ce pardon de Dieu, recevoir cette espérance qui est une garantie pour l'éternité. Donc, tout simplement, vous pouvez le faire vous-même avec vos propres mots. Il n'y a pas de position spéciale à adopter, il n'y a pas de formule magique. Il s'agit d'une attitude de cœur et d'une expression libre devant Dieu. Il y a d'autres questions, d'autres remarques. Voilà. Sinon, je vous remercie beaucoup pour votre attention. En tout cas, nous sommes encore disponibles. Ah, excusez-moi, je ne vous ai pas vu.
Merci beaucoup. Je voulais d'avoir une présentation. Et ma question est celle-ci. Moi, je suis un ex-enfant soldat. J'ai été kidnappé à 12 ans par la rébellion. J'ai fait la rébellion. Aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce. Je suis ambassadeur des enfants soldats à l'ONU. Je travaille sur la thématique des enfants soldats. Alors, il y a des questions que je me pose. Comme vous avez parlé de la culpabilité, quand on récupère des enfants, la première des choses qu'on fait avec les enfants, on vous amène dans votre localité, on vous demande de tuer les gens, on coupe les liens avec votre société ou votre localité pour ne plus avoir l'envie de retourner. Alors, il y a des milliers d'enfants qui sont aujourd'hui traumatisés, qui sont devenus fous. Alors, ces enfants, quel est leur sort par rapport à la pardon de Dieu?
Alors effectivement, c'est vraiment quelque chose de tragique, d'horrible, et Dieu juge en fonction des actes dans lesquels nous avons une responsabilité. Alors je ne sais pas jusqu'à quel point on peut vraiment attribuer une responsabilité à ces enfants qui, en fait, ne sont plus dans le jeune âge, sont directement, sont conditionnés pour cela, et des fois obligés. Donc, je veux pas me mettre à la place de Dieu, mais de ce que je comprends, c'est que Dieu est un Dieu de justice, qu'un Dieu, c'est un Dieu qui ne prend pas le coupable pour l'innocent, jamais. C'est un Dieu de pardon, mais est-ce que ces enfants-là sont vraiment coupables? Est-ce que parce qu'ils ne sont pas forcément toujours responsables, ils sont forcés, ils sont parfois même drogués pour faire ce genre de choses? Donc, je dirais simplement cela, après je ne suis pas à la place de Dieu. En tout cas, je sais que Dieu est plein de pardon et qu'il est possible de changer de vie, comme Gaël a changé de vie, comme chacun d'entre nous peut changer de vie sans être un grand voyou avant. On a quand même besoin de changer de vie parce que par rapport à Dieu, notre attitude de cœur, on l'a dit, est souvent très dure. Mais dans ce cas-là précis, je n'ai pas d'autres éléments de réponse. Peut-être que je dirais qu'à cet âge d'enfant, ils ne sont pas forcément toujours maîtres et responsables de ce qu'on les a forcés à faire. C'est peut-être la seule chose que je dirais, et avec prudence, parce que je ne sais pas plus. Je ne sais pas ce que je veux.
Non, ce serait dans la même logique de dire que sous l'effet de la contrainte et des enfants, jusqu'où va leur propre engagement. Il est clair par contre que même quand on est enfant, on peut avoir conscience, mais ce qui est sûr, c'est que au premier instant où on a la faculté, où on peut penser par soi-même, et ben, la pensée sera directement inclinée vers le mal. Ça, c'est sûr, parce que le cœur humain est comme ça, rempli de péché. Mais maintenant, pour ce qui est d'un enfant, jusqu'où il est déjà responsable de ses propres actes, et comme tu dis, Dieu, la confiance qu'on peut avoir, c'est qu'il est juste, et que le jugement que lui rendra sera un jugement juste. Pourquoi il y a tellement d'injustices dans le monde? Il faut dire qu'on... Généralement, quand on pose cette question, on est en train de mettre Dieu sur le banc des accusés, de façon directe ou de façon indirecte. On pose directement la question à Dieu, pourquoi tant de souffrances? Pourquoi ceci et pourquoi cela? Mais il me semble que c'est l'un des points sur lesquels la foi chrétienne est le plus attaquée aussi souvent. Et c'est le cheval de bataille des personnes qui se revendiquent athées ou qui repoussent ou qui rejettent l'évangile. C'était bien aussi, dans cette haine que j'entretenais, c'était sur un principe, je me disais, si Dieu était là, pourquoi il y a eu l'esclavage, pourquoi il y a eu ceci, pourquoi il y a eu cela. Mais il faut bien se rendre compte que tout commence quand on met Dieu même sur le banc des accusés. Il répond par la parole de Dieu. Il répond par sa parole. Et dans le livre de la Genèse, on explique comment il crée toute chose. Et à chaque fois qu'il crée, en 6 étapes, il dit que c'est bon. Et quand il crée la dernière chose, quand il crée l'homme, il dit que tout est très bon, tout est parfait. Il donne à l'homme finalement cette liberté, cette option-là de pouvoir choisir, cette option qui, oui, en pouvant choisir, on peut choisir aussi ce qui n'est, on peut choisir l'injustice aussi, mais c'est parce qu'on peut choisir l'injustice finalement devient moins dommageable que la justice de Dieu qu'on pourrait choisir de façon libre, qui est plus avantageuse. Je ne sais pas si je suis clair. Non. Alors, je dis, Dieu fait un don précieux, le don qui finalement fait une grande différence entre nous et certaines autres créatures, et toutes les autres créatures. Mais dans ce don, oui, il y a cette liberté, ce choix parfait qu'on peut faire de choisir Dieu. Mais l'homme a fait le mauvais choix dès la base. C'est à partir de là que l'injustice commence. Et quand même on veut se poser la question de l'injustice, on aime bien regarder l'injustice, la grosse injustice, c'est-à-dire les guerres entre nations. Mais quand on regarde à nous-mêmes, c'est-à-dire l'injustice que je fais à mon prochain, le mal que je lui fais, s'il était chef d'État et moi chef d'État, et ce serait nation contre nation. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que l'injustice, elle commence déjà dans notre propre cœur. Et tout, quand je regardais la question tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? J'avais jamais pensé à ça. Mais oui, on lui a fait quelque chose. On a péché contre lui. Et c'est là que l'injustice est rentrée dans le monde.
Merci. Donc, elle a vraiment souligné ce point. Je changerai de perspective et je dirais effectivement, ici, sur cette terre, il y a de l'injustice, mais Dieu nous promet une éternité sans injustice, une éternité parfaitement juste, une éternité parfaitement équitable, où chacun sera dans la joie. Et donc j'invite toutes les personnes qui ont soif d'autre chose que cette injustice, qui qui règne dans le monde à se tourner vers Dieu, à recevoir son pardon, parce que lui seul peut nous garantir une éternité de justice. Et alors il est bien triste qu'aujourd'hui nous subissions l'injustice, mais plus on est révolté contre l'injustice, plus on peut espérer quelque chose de Dieu et saisir cette éternité de justice. Voilà peut-être une autre réponse avec un autre éclairage de celui de Gaël qui était déjà bien complet. Oui. On a choisi le thème parce que c'est une question qui revenait souvent dans nos discussions avec les personnes de Saint-Maur. Finalement, Dieu existe ou pas, mais finalement, qu'est-ce que ça change, qu'est-ce que ça rapporte? Et donc, on avait envie de répondre aux interrogations des gens de la ville de Saint-Maur. Donc, on les a invités donc à différents lieux de la ville. On est allé à la rencontre des gens de Saint-Maur pour leur dire effectivement, Dieu, il peut vraiment changer des choses. Et donc, c'était vraiment cette volonté de partager avec tous les gens de Saint-Maur, oui, Dieu peut faire quelque chose dans votre vie, et maintenant, est-ce que vous voulez le laisser faire aussi quelque chose? Donc lui, il a tout fait pour nous rapporter des choses dans la vie, maintenant, je dirais aussi la vallée de notre camp. Donc c'était vraiment pour présenter ça aux habitants de Saint-Maur, et leur dire, ben voilà, vous pouvez vous aussi bénéficier de Dieu, maintenant, la vallée de notre camp. Thank you.